Le marquis de Sade, d'Orgeville ou le criminel par vertu. D'Orgeville, fils d'un riche négociant de La Rochelle, partit très jeune pour l'Amérique, recommandé à un oncle dont les affaires avaient bien tourné. On lui envoya avant qu'il n'eût atteint l'âge de 12 ans. Il s'éleva près de ses parents dans la carrière qui se destinait à courir et dans l'exercice de toutes les vertus. Le jeune d'Orgeville était peu favorisé des grâces du corps. Il n'avait rien de désagréable, mais il ne possédait aucun de ces dons physiques qui valent à un individu de notre sexe le titre de bel homme. Ce que perdait pourtant d'Orgeville de ce côté, la nature le lui rendait de l'autre. Un bon esprit, ce qui vaut souvent mieux que le génie, une âme étonnamment délicate, un caractère franc, loyal et sincère. Toutes les qualités qui composent en un mot l'honnête homme et l'homme sensible. D'Orgeville les possédait avec profusion, et dans le siècle où l'on vivait alors, c'en était beaucoup plus qu'il ne fallait pour devenir à peu près certain d'être malheureux toute sa vie. À peine d'Orgeville eut-il atteint 22 ans que son oncle mourut, et le laissa à la tête de sa maison, qu'il régla pendant 3 autres années avec toute l'intelligence possible. Mais la bonté de son cœur devint bientôt la cause de sa ruine. Il s'engagea pour plusieurs amis, qui n'eurent pas autant d'honnêteté que lui. Quoique les perfides manquassent, il voulait faire honneur à ses engagements. Et d'Orgeville fut bientôt perdu. « Il est affreux d'être ainsi dérangé à mon âge, » disait ce jeune homme. « Mais si quelque chose me console de ce chagrin, c'est la certitude d'avoir fait des heureux, de n'avoir entraîné personne avec moi. » Ce n'était pas seulement en Amérique que d'Orgeville éprouvait des malheurs. Le sien même de sa famille lui en présentait d'affreux. On lui apprend un jour qu'une sœur, née quelques années après son départ pour le Nouveau Monde, vient de déshonorer et de perdre entièrement et lui et tout ce qui lui appartient. Que cette fille perverse, maintenant âgée de 18 ans, nommée Virginie, est malheureusement belle comme l'amour, éprise d'un écrivain des comptoirs de sa maison, et ne pouvant obtenir la permission de l'épouser, a eu l'infamie, pour parvenir à ses vues, d'attenter au jour de son père et de sa mère. Et qu'au moment où elle allait se sauver avec une partie de l'argent, on a heureusement empêché le vol, sans pouvoir néanmoins réussir à s'emparer des coupables, tous deux, dit-on, en Angleterre. On pressait d'Orgeville par la même lettre de repasser en France afin de se mettre à la tête de son bien et de réparer au moins par la fortune qu'il allait trouver, celle qu'il avait eu le malheur de perdre. D'Orgeville, au désespoir d'une foule d'incidents à la fois si fâcheux et si flétrissants, accourt à La Rochelle, n'y réalise que trop les funestes nouvelles qu'on lui a mandées, et renonçant dès lors au commerce, qu'il s'imagine ne plus pouvoir soutenir après tant de malheurs, d'une partie de ce qui lui reste, il fait face aux engagements de ses correspondants d'Amérique. Trait de délicatesse unique, et de l'autre, il forme le dessein d'acheter une campagne auprès de Fontenay en Poitou, où il puisse passer le reste de ses jours dans le repos, dans l'exercice de la charité et de la bienfaisance, les deux plus chères vertus de son âme sensible. Ce projet s'exécute. D'Orgeville, cantonné dans sa petite terre, soulage des pauvres, console des vieillards, marie des orphelins, encourage l'agriculteur et devient en un mot le dieu du petit canton qu'il habite. S'y trouvait-il un être malheureux, la maison de D'Orgeville lui était à l'instant ouverte. Y avait-il une bonne œuvre à faire, il en disputait l'honneur à ses voisins. Une larme coulait-elle en un mot, la seule main de D'Orgeville voulait aussitôt l'essuyer, et tout le monde, en bénissant son nom, disait du fond de l'âme: « Ah, voilà l'homme que la nature dessine à nous dédommager des méchants. Voilà les dons qu'elle fait quelquefois à la terre pour la consoler des maux dont elle l'accable. » On aurait désiré que d'Orgeville se mariât. Des individus d'un tel sang fussent devenus précieux à la société, mais absolument inaccessibles jusqu'alors aux attraits de l'amour, D'Orgeville avait à peu près déclaré qu'à moins que le hasard ne lui fît trouver une fille, qui bien à lui par la reconnaissance se trouva comme chargée de faire son bonheur, il ne se marierait certainement pas. On lui avait offert plusieurs parties, les avait tous refusées, ne trouvant, disait-il, dans aucune des femmes qu'on lui proposait, des motifs assez puissants pour être sûr d'être aimé d'elle un jour. « Je veux que celles que je prendrai me doivent tout, » disait d'Orgeville. N'ayant ni un bien assez considérable, ni une figure assez belle, pour l'enchaîner par ses liens, je veux qu'elle y tienne par des obligations essentielles, qui, la fixant à moi, lui ôte tout moyen de m'abandonner ou de me trahir. » Quelques amis de d'Orgeville combattaient sa façon de penser. « Mais de quelle force seront ces liens ? » lui faisait-on quelquefois observer, si l'âme de celle que vous aurez servie n'est pas aussi belle que la vôtre. La reconnaissance n'est point pour tous les êtres une chaîne aussi indissoluble que pour vous. Il est des âmes faibles qui la méprisent, il en est des fiers qui s'y échappent. N'avez-vous pas appris à vos dépens, d'Orgeville, qu'on se brouille en rendant service, bien plus sûrement qu'on ne se fait des amis? Ces raisons étaient spécieuses. Mais le malheur de d'Orgeville était de juger toujours les autres d'après son cœur, et ce système l'ayant rendu malheureux jusqu'alors, il n'était que trop vraisemblable qu'il achèverait de le rendre tel le reste de ses jours. Ainsi pensait, quoi qu'il en pût être, l'honnête homme dont nous racontons l'histoire, lorsque le sort vint lui présenter d'une façon bien singulière l'être qu'il crut destiné à partager sa fortune, qu'il imagina fait pour le don précieux de son cœur. Dans cette intéressante saison de l'année, où la nature ne paraît vous faire ses adieux qu'en nous accablant de ses dons, où ses soins infinis pour nous ne cessent de se multiplier pendant quelques mois, pour nous prodiguer tout ce qui peut nous faire attendre en paix le retour de ses premières faveurs. À cette époque où les habitants de la campagne se fréquentent le plus, soit en raison des chasses, des vendanges ou de quelques autres de ses occupations si douces à qui chérit la vie rurale, et de si peu de prix pour ces êtres froids et inanimés, engourdis pour le luxe des villes, desséchés par leur corruption, qui ne connaissent de la société que les douleurs ou les minuties, parce que cette franchise, cette candeur, cette douce cordialité qui en ressort si délicieusement les nœuds, ne se trouve qu'avec les habitants de la campagne. Il semble que ce n'est que sous un ciel pur que les hommes peuvent l'être également, et que ces exhalaisons ténébreuses qui chargent l'atmosphère des grandes villes souille de même le cœur des malheureux captifs qui se condamnent à ne pas quitter leur enceinte. Au mois de septembre, enfin, d'Orgeville projeta d'aller rendre visite à un voisin qu'il avait accueilli à son arrivée dans la province et dont l'âme douce et compatissante paraissait s'arranger à la sienne. Il monta à cheval, suivi d'un seul valet, et s'achemine vers le château de cet ami éloigné de 5 lieues du sien. D'Orgeville en avait à peu près fait 3, lorsqu'il entend derrière une haie qui borde le chemin des gémissements qu'il arrête d'abord par curiosité, bientôt après par ce mouvement si naturel à son cœur de soulager tous les individus souffrants. Alors il donne son cheval à son domestique, franchit le fossé qui le sépare de la haie et la tourne, et parvient enfin au lieu même d'où partaient les plaintes qu'il avait surpris. Oh, monsieur! S'écrie une fort belle femme, tenant dans ses bras un enfant qu'elle vient de mettre au monde. Quel Dieu vous envoie au secours de cet infortuné! Vous voyez une créature au désespoir, monsieur, continua cette femme éplorée en versant un torrent de larmes. Ce misérable fruit de mon déshonneur n'allait voir le jour que pour le perdre aussitôt de ma main. Avant que d'entrer avec vous, mademoiselle, dit d'Orgeville, dans les motifs qui pouvaient vous porter à une aussi horrible action, permettez-moi de m'occuper d'abord de votre soulagement. Il me semble que j'aperçois une grange à quelques cent pas d'ici. Tâchons d'y arriver, et là, après avoir reçu les premiers soins qu'exige votre état, j'oserais vous demander quelques détails sur les malheurs qui paraissent vous accabler. En vous engageant ma parole que ma curiosité n'aura d'autre but que le désir de vous être utile, et qu'elle se renfermera dans les bornes qu'il vous plaira de lui prescrire. Cécile se confond en marque de reconnaissance et consent à ce qu'on lui propose. Le valet approche, il prend l'enfant. D'Orgeville place avec lui la mère sur son cheval et l'on avance vers la ferme. Elle appartenait à des paysans à leur aise qui, à la sollicitation de D'Orgeville, reçoivent très bien et la mère et l'enfant. On prépare un lit pour Cécile, on place son fils dans un berceau de la maison, et D'Orgeville, trop curieux des suites de cette aventure pour ne pas sacrifier au désir de les apprendre, la partie de plaisir qu'il a projetée, envoyé dire qu'on ne la demande point, vu qu'il se détermine à passer comme il pourra dans cette chaumière la journée et la nuit prochaine. Cécile, ayant besoin de repos, il commence par la supplier d'en prendre, avant que de songer à le satisfaire. Et comme elle ne s'était pas trouvée mieux vers le soir, il attendit au lendemain matin pour demander à cette charmante créature en quoi il pouvait lui être de quelque secours. Le récit de Cécile ne fut pas long. Elle dit qu'elle était fille d'un gentilhomme qui s'appelait Dupérier, et dont la terre était à 10 lieues de là, qu'elle avait eu le malheur de se laisser séduire par un jeune officier du régiment de Vermandois, pour lors en garnison à Niort, dont le château de son père n'était qu'à quelques lieues, que son amant ne l'avait pas plutôt su grosse qu'il avait disparu. Et ce qu'il y avait de plus affreux, ajouta Cécile, était que ce jeune homme, ayant été tué 3 semaines après, dans un duel, elle perdait à la fois l'honneur et l'espoir de jamais réparer sa faute. Elle avait, continua-t-elle, caché sa situation à ses parents aussi longtemps qu'elle l'avait pu. Mais, se voyant enfin hors d'état d'en pouvoir imposer davantage, elle avait tout avoué, et reçu dès lors de si mauvais traitements de son père et de sa mère qu'elle avait pris le parti de se sauver. Il y avait quelques jours qu'elle était dans les environs, ne sachant à quoi se déterminer, et ne pouvant se résoudre à abandonner tout à fait la maison paternelle, ou les domaines qui l'avoisinaient. Lorsque, saisie par les grandes douleurs, elle s'était résolue à tuer son enfant, et peut-être elle-même après, quand D'Orgeville lui était apparu et avait daigné lui offrir tardi de ses secours et de consolation. Ces détails, soutenus d'une figure enchanteresse, et de l'air du monde le plus naïf et le plus intéressant, pénétrèrent bientôt l'âme sensible de D'Orgeville. « Mademoiselle, dit-il à cette infortunée, je suis trop heureux que le ciel vous ait offert à moi. J'y gagne 2 plaisirs bien précieux à mon cœur, et celui de vous avoir connue, et celui bien plus doux encore d'être à peu près certain de réparer vos maux. » Cet aimable consolateur déclara alors à Cécile le dessein qu'il avait d'aller trouver ses parents et de la raccommoder avec eux. « Oh, vous irez donc seul, monsieur, répondit Cécile, car pour moi je ne m'y représenterai certainement pas. » « Oui, mademoiselle, j'irai tout seul d'abord, dit D'Orgeville, mais j'espère bien n'en pas revenir sans la permission de vous y ramener. Oh, monsieur, n'y comptez jamais. Vous ne connaissez pas la dureté des gens auxquels j'ai affaire. Leur barbarie est si reconnue, leur fausseté est si grande. Que m'assurassent-ils même de mon pardon? Je ne me fierai point encore à eux. Cependant, Cécile accepta les offres qui lui étaient faites, et voyant d'Orgeville décidé à se rendre le lendemain matin chez Dupérier, elle le conjura de vouloir bien se charger d'une lettre pour le nommer Saint-Surin, l'un des domestiques de son père, et celui qui avait toujours le plus grand mérite et sa confiance pour son extrême attachement pour elle. La lettre fut remise cachetée à d'Orgeville, et Cécile, en la lui donnant, le supplia de ne pas abuser de l'extrême confiance qu'elle avait en lui, et de la rendre la tête intacte et telle qu'elle la lui donnait. D'Orgeville paraît fâché qu'on puisse douter de sa discrétion après la conduite qu'il tient. On lui en fait mille excuses, il se charge de la commission, recommande Cécile aux paysans chez lesquels elle est et part. D'Orgeville, imaginant bien que la lettre dont il est chargé doit prévenir en sa faveur le domestique pour lequel elle est, croit ne connaissant point du tout M. Dupérier, ce qu'il a de mieux à faire est de donner d'abord la lettre qu'il a, et de se faire annoncer ensuite par ce même domestique dont il sera connu par ce moyen. S'étant nommé à Cécile, il ne doute pas qu'elle demande à ce Saint-Surin, dont elle a vanté la fidélité, quelle est la personne qui vient s'intéresser à son sort. Il remet en conséquence sa lettre, et Saint-Surin ne l'a pas plutôt lue qu'il s'écrie avec une sorte d'émotion dont il n'est pas le maître. « Quoi? C'est vous, monsieur? C'est monsieur d'Orgeville qui est le protecteur de notre malheureuse maîtresse? Oh, je vais vous annoncer à ses parents, monsieur. Mais je vous préviens qu'ils sont cruellement en colère. Oh, je doute que vous réussissiez à les raccommoder avec leur fille. Quoi qu'il en soit, monsieur, continua Saint-Surin, qui paraissait un garçon d'esprit et d'une figure agréable, ce procédé fait trop d'honneur à votre âme pour que je ne vous mette pas le plus tôt possible à même d'en rater le succès. Saint-Surin monte aux appartements, il prévient à l'instant ses maîtres et reparaît au bout d'un quart d'heure. On consentait à voir M. d'Orgeville, puisqu'il s'était donné la peine de venir d'aussi loin pour une telle affaire. Mais on était d'autant plus peiné qu'il s'en fût chargé, qu'on ne voyait aucun moyen de lui accorder ce qu'il venait solliciter en faveur d'une fille maudite et qui méritait son sort par l'énormité de sa faute. D'Orgeville ne s'effraie point. On l'introduit. Il trouve dans M. et Mme Dupérier deux personnes d'environ 50 ans qui le reçoivent honnêtement, quoique avec un peu d'embarras. Et D'Orgeville expose succinctement ce qui l'amène dans cette maison. « Ma femme et moi, nous sommes irrévocablement décidés, monsieur, dit le mari, à ne jamais recevoir une créature qui nous déshonore. Elle peut devenir ce que bon lui semblera, nous l'abandonnerons à la destinée du ciel, en espérant de sa justice qui nous vengera bientôt d'une telle fille. » D'Orgeville réfuta ce projet barbare par tout ce qu'il put employer de plus pathétique et de plus éloquent. Ne pouvant convaincre l'esprit de ces gens-là, il essaya d'attaquer leur cœur. Même résistance. Cependant, Cécile ne fut accusée par ses parents cruels d'aucun autre tort que de ceux dont elle s'était elle-même avouée coupable. Et il se trouva que, dans tout, les récits qu'elle avait faits étaient absolument conformes aux accusations de ses juges. D'Orgeville a beau représenter qu'une faiblesse n'est pas un crime, que dans la mort du séducteur de Cécile, un mariage eut tout réparé, rien ne réussit. Notre négociateur se retira assez peu satisfait. On veut le retenir à dîner, il remercie, et fait sortir en s'en allant que la cause de ce refus ne doit se trouver que dans ceux qu'il éprouve lui-même. On ne le presse point, et il sort. Saint-Surin attendait d'Orgeville au sortir du château. « Eh bien, monsieur, lui dit ce domestique, avec tout l'air de l'intérêt, n'avais-je pas raison de croire que vos peines seraient infructueuses? Vous ne connaissez pas ceux à qui vous venez d'avoir affaire. Ce sont des cœurs de bronze. Jamais l'humanité ne fut entendue d'eux. Sans mon respectueux attachement pour cette chère personne à laquelle vous voulez bien servir de protecteur et d'ami, il y a longtemps que je les aurais quittés moi-même. Et je vous avoue, monsieur, poursuivit ce garçon, qu'en perdant aujourd'hui, comme je le fais, l'espoir de jamais consacrer davantage mes services à mademoiselle du Perrier, je ne vais plus m'occuper que de me placer ailleurs. » D'Orgeville calme ce fidèle domestique. Il lui conseille de ne point quitter ses maîtres et l'assure qu'il peut être tranquille sur le sort de Cécile, que du moment qu'elle est assez malheureuse pour être abandonnée aussi cruellement de sa famille, il prétend à jamais lui tenir lieu de père. Saint-Surin, en pleurant, embrasse les genoux de D'Orgeville et lui demande en même temps la permission de lui donner la réponse à la lettre qu'il a reçue de Cécile. D'Orgeville s'en charge avec plaisir et revient auprès de son intéressante protégée, qui ne le console pas autant qu'il l'aurait voulu. « Hélas, monsieur, dit Cécile, quand elle apprend la dureté de sa famille, je devais m'y attendre. Je ne me pardonne point, étant sûr de ses procédés comme je devais l'être, de ne vous avoir pas épargné une visite aussi désagréable. » Et ces mots furent accompagnés d'un torrent de larmes que le bienfaisant d'Orgeville essuya en protestant à Cécile de ne l'abandonner jamais. Cependant, au bout de quelques jours, notre intéressante aventurière se trouva en remise. D'Orgeville lui proposa de venir achever de se rétablir dans sa maison. « Eh, monsieur, répondit Cécile, avec douceur, suis-je en état de résister à vos offres et ne dois-je pourtant pas rougir de les accepter ? Vous en avez déjà beaucoup trop fait pour moi. Mais, captivé par les liens mêmes de ma reconnaissance, je ne me refuserai à rien de ce qui doit les multiplier et me les rendre en même temps plus chers. » On se rendit chez D'Orgeville. Un peu avant que d'être au château, mademoiselle du Perrier témoigna à son bienfaiteur qu'elle désirerait n'être pas publiquement dans l'asile qu'on voulait bien lui donner. Quoiqu'il y eût près de 15 lieues de là chez son père, ce n'est pourtant point assez pour qu'elle n'eût pas à craindre d'être reconnue, et ne devait-elle pas appréhender les effets du ressentiment d'une famille assez cruelle pour punir avec autant de sévérité d'une faute grave, elle en convenait, mais qu'on devait prévenir avant qu'elle n'arrivât, bien plutôt que de la châtier aussi durement quand il n'était plus temps de l'empêcher. D'ailleurs, pour lui-même, D'Orgeville serait-il bien aise d'afficher aux yeux de toute la province qu'il voulait bien prendre un intérêt aussi particulier à une malheureuse fille proscrite par ses parents et déshonorée dans l'opinion publique. L'honnêteté de D'Orgeville ne lui permit pas de s'arrêter à cette seconde considération. Mais la première le décida. Il promit à Cécile qu'elle serait chez lui comme elle l'exigerait, qu'il la ferait passer dans l'intérieur par une de ses cousines et qu'elle ne verrait au dehors que le peu de personnes qu'elle désirerait. Cécile remercia de nouveau son généreux ami et l'on arriva. Il est temps de le dire, D'Orgeville n'avait pas vu Cécile sans une sorte d'intérêt mêlé d'un sentiment qui lui avait été inconnu jusqu'alors. Une âme comme la sienne ne devait se rendre à l'amour qu'en oblit par la sensibilité ou préparé à la bienfaisance. Toutes les qualités que D'Orgeville voulait dans une femme se rencontraient dans mademoiselle du Perrier. Ces circonstances bizarres auxquelles il voulait devoir le cœur de celle qu'il épouserait s'y trouvaient également. Il avait toujours dit qu'il désirait que la femme à laquelle il donnerait sa main fut en quelque façon lié à lui par la reconnaissance, et qu'il aspirait à ne la tenir, pour ainsi dire, que ce sentiment-là. N'était-ce pas ce qui arrivait ici? Et dans le cas où les mouvements de l'âme de Cécile ne se trouveraient pas très éloignés des siens, devait-il, avec sa manière de voir, balancer à lui offrir de la consoler par les nœuds de l'hymen des torts impardonnables de l'amour? L'espoir d'une chose très délicate et supérieurement faite pour l'âme de Dorgeville se présentait encore en réparant l'honneur de Mademoiselle Dupérier. N'était-il pas clair qu'il la raccommodait avec ses parents, et ne devait-il pas délicieux pour lui de rendre à la fois à une femme malheureuse et l'honneur que lui ravissait le plus barbare des préjugés, et la tendresse d'une famille qui lui enlevait également la cruauté la plus inouïe? Tout plein de ces idées, Dorgeville demande à Mademoiselle Dupérier si elle désapprouve qu'il fasse une seconde tentative chez ses parents. Cécile ne l'en dissuade point, mais elle se garde bien de lui conseiller. Elle essaie même de lui en faire sentir l'inutilité, en le laissant néanmoins le maître de faire sur ce point tout ce qu'il désirera. Et elle finit par dire à Dorgeville que sans doute elle commence à lui devenir à charge, puisqu'il désire avec tant d'ardeur de la rendre au sein d'une famille dont il voit bien qu'elle est abhorrée. Dorgeville, très content d'une réponse qui lui préparait les moyens de s'ouvrir, assure sa protégée que s'il désire une réconciliation avec ses parents, c'est uniquement pour elle et pour le public, lui n'ayant besoin de rien pour animer l'intérêt qu'elle inspire, ou tout au plus de l'espoir que les soins qu'il lui rend ne lui déplairont pas. Mademoiselle Dupérier répond à cette galanterie en laissant tomber sur son ami des yeux languissants et tendres qui prouvent un peu plus que de la reconnaissance. Dorgeville n'en comprend que trop l'expression et résolu à tout pour rendre enfin l'honneur et le repos à sa protégée. 2 mois après sa première visite chez les parents de Cécile, il se décide à en faire une seconde et à leur déclarer enfin ses légitimes intentions, ne doutant pas qu'un tel procédé de sa part ne les détermine sur le champ à rouvrir leur maison et leurs bras à celle qui se trouve assez heureuse pour réparer aussi bien la faute qui les a contraints à éloigner d'eux beaucoup trop durement une fille qu'ils doivent chérir au fond de leur âme. Cécile ne charge point cette fois-ci Dorgeville d'une lettre pour Saint-Surin, ainsi qu'elle l'avait fait lors de sa première visite. Peut-être en saurons-nous bientôt la cause. Dorgeville ne s'en adresse pas moins à ce valet pour être introduit de nouveau chez M. Dupérier. Saint-Surin le reçoit avec les plus grandes marques de respect et de plaisir. Il lui demande des nouvelles de Cécile avec les plus vifs témoignages d'intérêt et de vénération. Et dès qu'il a appris les motifs de la seconde visite de Dorgeville, il loue infiniment un aussi noble procédé. Mais il déclare en même temps qu'il est presque sûr que cette démarche n'aura pas un meilleur succès que l'autre. Rien ne décourage Dorgeville et il entre chez Dupérier. Il lui dit que sa fille est chez lui, qu'il prend le plus grand soin et d'elle et de son enfant, qu'il la croit entièrement revenue de ses erreurs, qu'elle ne s'est pas un instant démentie dans ses remords, et qu'une pareille conduite lui paraît mériter enfin quelque indulgence. Tout ce qu'il dit est écouté du père et de la mère avec la plus grande attention. Un moment, Dorgeville croit avoir réussi. Mais au flegme étonnant avec lequel on lui répond, il n'est pas longtemps à se convaincre qu'il traite avec des armes de fer, avec des espèces d'animaux, enfin, bien plus semblables à des bêtes féroces qu'à des créatures humaines. Confondu d'un tel endurcissement, Dorgeville demande à monsieur et à madame Dupérier s'ils ont quelque autre motif de plainte ou de haine contre leur fille, lui paraissant inconcevable que, pour une faute de cette nature, il se décide à un tel excès de rigueur vis-à-vis d'une créature douce et honnête, et qui rachète ses torts par une foule de vertus. Dupérier prend ici la parole. « Je ne vous détournerai point, dit-il, monsieur, des bontés que vous avez pour celle que je nommais autrefois ma fille et qui s'est rendue indigne de ce nom. De quelque cruauté qu'il vous plaise de m'accuser, je ne l'apporterai pourtant point jusque-là. Nous lui connaissons d'autres torts que celui de son inconduite avec un mauvais sujet qu'elle n'aurait jamais dû regarder. Cette faute est assez grave à nos yeux pour qu'après s'en être souillée, nous la condamnions à ne nous revoir de la vie. Cécile, dans les commencements de son ivresse, fut avertie par des suites plus d'une fois par nous. Nous lui prédîmes tout ce qui lui est arrivé. Rien ne l'arrêta. Elle a méprisé nos conseils. Elle a méconnu nos ordres. En un mot, elle s'est jetée volontairement dans le précipice. Quoique nous lui montrassions sans cesse entr'ouvert sous ses pas. Une fille qui aime ses parents ne se conduit point ainsi. Tant qu'étayée par le suborneur à qui elle doit sa chute, elle a cru pouvoir nous braver, elle l'a fait insolemment. Il est bon qu'elle sente à présent ses torts. Il est juste que lui refusions nos secours, quand elle les a méprisés lorsqu'elle en avait un besoin si réel. Cécile a fait une sottise, monsieur, elle en ferait bientôt une seconde. L'éclat a eu lieu. Nos amis, nos parents, savent qu'elle a fui la maison paternelle, honteuse de l'état où l'avait réduit ses travers. Restons-en là, et ne nous obligez point à rouvrir notre sein à une créature sans âme et sans conduite, qui n'y rentrerait que pour nous préparer de nouvelles douleurs. Affreux système ! S'écria d'Orgeville, piqué de tant de résistance. Maxime bien dangereuse que celle qui, punissant une fille, dont le seul tort est d'avoir été sensible. Tels sont les abus dangereux qui deviennent la cause de tant de meurtres épouvantables. Cruels parents, cessez d'imaginer qu'une malheureuse femme est déshonorée pour avoir été séduite. Elle fut devenue moins criminelle avec moins de sagesse ou de religion. Ne la punissez pas d'avoir respecté la vertu dans le sein même du délire, par une stupide inconséquence. Ne forcez point des infamies celle qui n'a d'autre tort que d'avoir suivi la nature. Voilà comme l'imbécile contradiction de nos usages, en faisant dépendre l'honneur de la plus excusable des fautes, entraîne au plus grand crime celle pour qui la honte est un poids plus affreux que le remords. Et voilà, comme dans ce cas, ainsi que dans mille autres, on préfère des atrocités qui servent de voile à des erreurs indéguisables. Que les fautes légères n'impriment aucune flétrissure aux coupables, et pour ensevelir ces minutes, ceux qui se sont permises ne se plongeront plus dans un abîme de mots. Préjugés à part, mais où donc l'infamie pour une pauvre fille qui, trop livrée au sentiment le plus naturel, a doublé son existence par excès de sensibilité. De quel forfait est-elle coupable? Où sont en cela les torts effrayants de son âme ou de son esprit? Mais ne sentira-t-on jamais que la seconde faute n'est qu'une suite de la première, qui elle-même ne saurait en être une? Quelle impardonnable contradiction! On élève ce malheureux sexe dans tout ce qui peut décider sa chute et on le flétrit quand elle est faite. Père barbare, ne refusez pas à vos filles l'objet qui les intéresse. Par un égoïsme atroce, ne les rendez pas éternellement les victimes de votre avarice ou de votre ambition. Et c'est lors de leur penchant sous vos lois, ne voyant plus en vous que des amis, elles se garderont bien de commettre la faute ou les contraignent vos refus. Elles ne sont donc coupables que par vous. Vous seuls imprimez sur leur front le sceau fatal de l'opprobre. Elles ont écouté la nature et vous la violez. Elles ont fléchi sous ses lois et vous les étouffez dans vos âmes. Vous seuls mériteriez donc le déshonneur ou la peine, puisque vous seuls êtes cause du mal qu'elles font, et qu'elles n'eussent jamais vaincu, sans vos cruautés, les sentiments de pudeur et de décence que le ciel imprima dans elles. Eh bien, poursuivit Longeville, avec plus de chaleur encore, eh bien, monsieur, puisque vous ne voulez pas réparer l'honneur de votre fille, j'en prendrai donc moi-même le soin. Dès que vous avez la barbarie de ne plus voir qu'une étrangère dans ses cils, je vous déclare, moi, que j'y vois une épouse. Je prends sur moi la somme de ses torts, quels qu'ils aient été. Je n'en avoue pas moins pour ma femme à la face de toute la province, et plus honnête que vous, monsieur. Quoiqu'après la manière dont vous vous conduisez, votre consentement me devient inutile, je veux bien encore vous le demander. Puis-je être sûr de l'obtenir ? Dupérier, confondu, ne put s'empêcher de fixer ici d'Orgeville avec des marques d'une étonnante surprise. « Quoi, monsieur ? Lui dit-il. « Un galant homme comme vous s'expose volontairement à tous les dangers d'une telle alliance ?»« À tous, monsieur, les torts de votre fille avant qu'elle ne me connût ne peuvent raisonnablement m'alarmer. Il n'y a qu'un homme injuste ou des préjugés atroces qui puisse regarder comme vil ou comme coupable une fille pour avoir aimé un autre homme avant qu'elle ne connût son mari. Cette manière de penser a sa source dans un impardonnable orgueil qui, non content de maîtriser ce qu'il a, voudrait enchaîner ce qu'il ne possédait pas encore. Non, monsieur. Ces absurdités révoltantes n'ont aucun empire sur moi. J'ai bien plus de confiance en la vertu d'une fille qui a connu le mal et qui s'en repent qu'en celle d'une femme qui n'eut jamais rien à se reprocher avant ses nœuds. L'une connaît l'abîme et l'évite, l'autre y soupçonne des fleurs et s'y jette. Encore une fois, monsieur, je n'attends que votre aveu. Cet aveu n'est plus en notre pouvoir, reprit fermement Dupérier. En renonçant à notre autorité sur Cécile, en la maudissant, en la désavouant, comme nous l'avons fait et comme nous continuons de faire encore, nous ne pouvons conserver la faculté d'en disposer. Elle est pour nous une étrangère que le hasard a placée dans vos mains, qui devient libre par son âge, par ses démarches et par notre abandon. De laquelle, en un mot, monsieur, il vous devient permis de faire tout ce que bon vous semblera. Mais quoi, monsieur? Vous ne pardonnerez pas, madame d'Orgeville, les torts de mademoiselle Dupérier? Nous pardonnons à madame d'Orgeville le libertinage de Cécile. Mais celle qui porte l'un et l'autre nom, ayant trop grièvement manqué à sa famille, quel que soit celui qu'elle prenne, pour se présenter à ses parents, ne sera pas plus reçu d'eux, sous l'un que sous l'autre. Mais observez-vous, monsieur, que c'est moi que vous insultez dans ce moment-ci, et que votre conduite devient ridicule, à côté de la décence de la mienne. Mais c'est parce que je le sens, monsieur, que j'imagine que ce que nous avons de mieux à faire est de nous séparer. Soyez, tant qu'il vous plaira, l'époux d'une catin. Nous n'avons aucun droit pour vous en empêcher. Mais ne vous imaginez pas en avoir non plus qui puisse vous contraindre à recevoir cette femme dans notre maison, quand elle l'a remplie de deuil et d'amertume, quand elle l'a souillée d'infamie. D'Angeline, furieux, se lève et part sans dire un seul mot. Bon, j'aurais écrasé cet homme féroce, dit-il à Saint-Surin qui lui présente son cheval. Si l'humanité me retenait, et si je l'épousais demain sa fille. « Vous l'épousez, monsieur ? » dit Saint-Surin, surpris. « Oui, je veux réparer demain son honneur. Je veux demain consoler l'infortune. Oh, monsieur, quelle action généreuse! Vous allez confondre la cruauté de ces gens-ci. Oh, vous allez rendre le jour à la plus infortunée des filles, quoique la plus vertueuse. Vous allez vous couvrir d'une gloire immortelle aux yeux de toute la province. Et d'Orgeville s'échappe au galop. De retour auprès de sa protégée, il lui raconte avec les plus grands détails l'affreuse réception qu'il a eue et l'assure que, sans elle, il aurait assurément fait repentir Dupérier de son indécente conduite. Cécile le remercie de sa prudence. Mais quand Orgeville, lui reprenant la parole, lui apprend qu'il est, malgré tout, décidé à l'épouser le lendemain, un trouble involontaire saisit cette jeune fille. Elle veut parler. Les mots expirent sur ses lèvres. Elle veut cacher son embarras. Elle l'augmente. Moi, dit-elle, avec un inexprimable désordre, moi, devenir votre épouse? Ah, monsieur, à quel point vous vous sacrifiez pour une pauvre fille si peu digne de vos bontés pour elle? Mais vous en êtes digne, mademoiselle, reprit vivement d'Orgeville. Une faute trop cruellement punie, et par la manière dont on vous a traité, et plus encore par vos remords, une faute qui ne peut pas avoir de suite, puisque celui qui vous l'a fait commettre n'existe plus. Une faute enfin qui ne sert qu'à mûrir votre esprit et à vous donner cette fatale expérience de la vie qu'on n'acquiert jamais qu'à ses dépens. Une telle faute, dis-je, ne vous dégrade nullement à mes yeux. Si vous me croyez fait pour la réparer, je m'offre à vous, mademoiselle. Ma main, ma maison, ma fortune, tout ce que je possède est à votre service. Prononcez. Oh, monsieur, s'écria Cécile, pardonnez si l'excès de ma confusion m'en empêche. Devais-je m'attendre à de telles bontés de votre part après les procédés de mes parents? Et comment voulez-vous que je puisse me croire capable d'en pouvoir profiter? Bien éloigné de la rigueur de vos parents, je ne juge pas une légèreté comme un crime. Et cette erreur qui vous coûte des larmes, je l'efface en vous donnant ma main. Mademoiselle Dupérier tombe aux genoux de son bienfaiteur. Les expressions paraissent manquer au sentiment dont son âme est pleine. Au travers de ce qu'elle doit, elle sait mêler l'amour avec tant d'adresse. Elle enchaîne en un mot, si bien l'homme qu'elle croit avoir tant d'intérêt à captiver, qu'avant 8 jours le mariage se célèbre, et qu'elle devient Madame d'Orgeville. Cependant, la nouvelle mariée ne quitte point encore sa retraite. Elle fait entendre à son époux que, n'étant point raccommodée avec sa famille, la décence l'oblige à ne voir que très peu de monde. Sa santé lui sert de prétexte, et d'Orgeville se borne à son intérieur et à quelques-uns de ses voisins. Pendant ce temps, l'adroite Cécile fait tout ce qu'elle peut pour persuader à son mari de quitter le Poitou. Elle lui représente que, dans l'état des choses, ils ne pourront jamais y être l'un et l'autre avec le plus grand désagrément, et qu'il serait bien plus décent pour eux d'aller s'établir dans quelque province éloignée de celle où l'épouse de d'Orgeville a reçu de toutes parts tant de désagréments et d'outrages. D'Orgeville goûta ce projet. Il avait même écrit à un ami qui demeurait auprès d'Amiens de lui chercher dans ses environs une campagne où il put aller finir ses jours avec une jeune personne aimable qu'il venait d'épouser et qui, brouillé avec ses parents, se trouvait en Poitou que des chagrins qui la contraignaient à s'en éloigner. On attendait la réponse à ces négociations lorsque Saint-Surin arrive au château. Avant que d'oser se présenter à son ancienne maîtresse, il fait demander à d'Orgeville la permission de le saluer. qu'on le reçoit avec satisfaction. Saint-Surin dit que la chaleur avec laquelle il a pris les intérêts de Cécile lui a fait perdre sa place, et qu'il vient réclamer ses bontés et prendre congé d'elle avant d'aller chercher fortune ailleurs. « Bon, vous ne nous quitterez point, » dit d'Orgeville, ému de compassion, et ne voyant dans cet homme qu'une emplette d'autant plus agréable à faire qu'elle plairait certainement à sa femme. « Non, non, vous ne nous quitterez point. » Et d'Orgeville, formant aussitôt de cet événement un sujet flatteur de surprise pour celle qu'il adore, il entre chez Cécile qu'en lui présentant Saint-Surin pour premier domestique de sa maison. Madame d'Orgeville, touchée jusqu'aux larmes, embrasse son époux, le remercie 100 fois de cette singulière attention et témoigne devant lui à ce valet combien elle est sensible à l'attachement qu'il a toujours conservé pour elle. On s'entretient un instant de monsieur et de madame Dupérier. Saint-Surin les peint tous les deux sous les mêmes traits de rigueur qui les a caractérisés aux yeux de d'Orgeville, et l'on ne s'occupe plus que des projets d'un prompt départ. Les nouvelles étaient arrivées d'Amiens. On avait positivement trouvé ce qui convenait, et les deux époux étaient au moment d'aller prendre possession de cette demeure, lorsque l'événement le moins attendu et le plus cruel vint ouvrir les yeux de d'Orgeville, détruire sa tranquillité et démasquer enfin l'infâme créature qu'il abusait depuis 6 mois. Tout était calme et content au château. On venait d'y dîner en paix. D'Orgeville et sa femme, absolument seuls ce jour-là, s'entretenaient ensemble dans leur salon avec ce doux repos du bonheur, éprouvés sans crainte et sans remords par d'Orgeville, mais non pas senti par sa femme avec autant de pureté et sans doute. Le bonheur n'est pas fait pour le crime. L'être assez dépravé pour en avoir suivi la carrière peut feindre l'heureuse tranquillité d'une belle âme, mais il en jouit bien rarement. Tout à coup, un bruit affreux se fait entendre. Les portes s'ouvrent avec fracas. Saint-Surin paraît dans les fers, paraît au milieu d'une troupe de cavaliers de maréchaussée, dont l'exant, suivi de 4 hommes, se jette sur Cécile, qui veut fuir, la retient, et sans aucun égard, ni pour ses cris, ni pour les représentations de d'Orgeville, se prépare à l'entraîner sur le champ. « Mais monsieur, monsieur !» s'écrie d'Orgeville en larmes. « Au nom du ciel, écoutez-moi. Que vous a fait cette dame? Et vous prétendez-vous la conduire? Ignorez-vous qu'elle m'appartient et que vous êtes dans ma maison? » « Monsieur, » répondit l'exempt, un peu plus tranquille, en se voyant maître de ses 2 proies, « le plus grand malheur qui puisse être arrivé à un aussi honnête homme que vous est assurément d'avoir épousé cette créature. Mais le titre qu'elle a usurpé avec autant d'infamie que d'impudence ne peut la garantir du sort qui l'attend. Vous me demandez où je la conduis, à Poitiers, monsieur, ou d'après l'arrêt prononcé contre elle à Paris, et qu'elle a évité jusqu'à présent par ses ruses, elle sera demain brûlée vive avec son indigne amant que voici, » continua l'exempt en montrant Saint-Surin. À ces funestes paroles, les forces de d'Orgeville l'abandonnent. Il tombe sans connaissance, on le secourt. L'exempt, sûr de ses prisonniers, aide lui-même aux attentions qu'exige ce malheureux époux. D'Orgeville reprend à la fin ses sens. Pour Cécile, elle était assise sur une chaise, gardée comme criminelle dans ce salon où, 1 heure avant, elle régnait en maîtresse. Saint-Surin, dans la même position, était à 2 ou 3 pas d'elle, resserré aussi étroitement, mais bien moins calme que Cécile, sur le front de laquelle on n'apercevait nulle altération. Rien ne troublait la tranquillité de cette malheureuse. Son âme faite au crime, envoyait la punition, sans effroi. « Remerciez le ciel, monsieur, » dit-elle à Dorgeville. « Voilà une aventure qui vous sauve le jour. Le lendemain de notre arrivée dans la nouvelle habitation où vous comptiez vous établir, cette dose, » continua-t-elle en jetant de sa poche un paquet de poison, « était mêlée dans vos aliments et vous expiriez 6 heures après. « Monsieur, » dit cette horrible créature à l'exempt, « vous voilà maître de moi. Une heure de plus ou de moins ne doit pas être d'une grande importance. Je vous la demande afin d'instruire d'Angeville des circonstances singulières qui l'intéressent. « Oui, monsieur, » poursuivit-elle en s'adressant à son mari. « Oui, vous êtes dans tout ceci bien plus compromis que vous ne le croyez. Obtenez que je puisse vous entretenir 1 heure et vous apprendrez des choses qui vous surprendront. Puissiez-vous les écouter jusqu'au bout avec tranquillité et sans qu'elles redoublent l'horreur que vous devez avoir pour moi. Vous verrez au moins, par cet affreux récit, que si je suis la plus malheureuse et la plus criminelle des femmes, ce monstre, dit-elle en montrant sa surin, est sans doute le plus scélérat des hommes. » Il était encore de bonne heure. L'exempt consentit au récit qu'annonçait sa captive. Peut-être était-il bien aise d'apprendre lui-même, quoiqu'il sût les crimes de sa prisonnière, quelle liaison ils avaient avec d'Orgeville. Deux seuls cavaliers restèrent dans le salon avec l'exempt et les deux coupables. Le reste se retira. Les portes se fermèrent et la fausse Cécile Duperrier commença son récit dans les termes suivants. « Vous voyez en moi, d'Orgeville, la créature que le ciel a fait naître et pour le tourment de vos jours et pour l'opprobre de votre maison. Vous sûtes en Amérique que quelques années après votre départ de France, il vous était né une sœur. Vous apprîtes de même longtemps après que cette sœur, pour jouir plus à l'aise de l'amour d'un homme qu'elle adorait, osa porter ses mains sur ceux dont elle tenait la vie et qu'elle se sauva ensuite avec cet amant. « Eh bien, d'Orgeville, reconnaissez cette sœur criminelle dans votre épouse infortunée et son amant dans Saint-Surin. Voyez si les crimes me coûtent et si je sais les doubler quand il faut. Apprenez maintenant comme je vous ai trompé, d'Orgeville, et calmez-vous, » dit-elle en voyant son malheureux frère reculé d'horreur et prêt à perdre une seconde fois l'usage de ses sens. « Oui, remettez-vous, mon frère, ce serait à moi de frémir. Et vous voyez comme je suis tranquille. Peut-être n'étais-je pas né pour le crime. Et sans les perfides conseils de Saint-Surin, peut-être se fut-il jamais éveillé dans mon cœur. C'est à lui que vous devez la mort de nos parents. Il me l'a conseillé. Il m'a fourni ce qu'il fallait pour l'exécuter. C'est de sa main que je tiens également le poison qui devait terminer vos jours. Dès que nous eûmes exécuté nos premiers projets, on nous soupçonna. Alors il fallut partir, sans pouvoir même emporter les sommes que nous comptions nous approprier. Les soupçons se changèrent bientôt en preuves. On instruisit notre procès. On prononça contre nous le funeste arrêt que nous allons subir. Alors nous nous éloignâmes, mais pas assez malheureusement. Nous fîmes courir le bruit d'une évasion en Angleterre, on l'a cru. Nous nous imaginâmes follement qu'il était inutile d'aller plus loin. Saint-Surin se présenta pour domestique chez M. Duperrier. Ses talents le firent bientôt recevoir. Il me cacha dans un village voisin de la terre de cet honnête homme. Il me voyait secrètement, et je n'ai jamais paru pendant cet intervalle à d'autres regards qu'à ceux de la femme chez laquelle j'étais logé. Cette manière d'être m'ennuyait, je ne me sentais pas faite pour une vie tellement ignorée. Il y a quelquefois de l'ambition dans les âmes criminelles. Interrogez tous ceux qui sont parvenus sans mérite, et vous verrez que c'est rarement sans crime. C'est sur un consentait volontiers à aller chercher d'autres aventures. Mais j'étais grosse, il fallait avant tout me débarrasser de mon fardeau. Saint-Surin voulut m'envoyer pour mes couches dans un village plus éloigné de l'habitation de ses maîtres, chez une femme amie de mon hôtesse. Toujours dans l'intention de mieux observer le mystère, il fut résolu que je m'y rendrais seul. Et j'y allais quand vous m'avez rencontré. Les douleurs m'ayant saisi avant d'arriver chez cette femme, je me délivrais seul au pied d'un arbre. Et là, un mouvement de désespoir m'ayant pris, me voyant délaissé comme je l'étais alors, moi, né dans l'opulence, et qui, avec une conduite plus réglée, eût pu prétendre aux meilleures parties de la province, je voulus tuer le malheureux fruit de mon libertinage et me poignarder moi-même après. Vous passâtes, mon frère, vous eûtes l'air de vous intéresser à mon sort. L'espoir de nouveaux crimes se rallume aussitôt dans mon sein. Je me résous à vous tromper pour augmenter l'intérêt que vous sembliez prendre à moi. Cécile Dupérier venait de se sauver de la maison paternelle pour se soustraire à la punition et à la honte d'une faute commise avec un amant qui la mettait dans le même état que moi. Parfaitement au fait de toutes les circonstances, je résolus de jouer le rôle de cette fille. J'étais sûr de deux choses, et qu'elle ne reparaîtrait pas, et que ses parents, fût elle-même venue se précipiter à leurs pieds, ne lui pardonneraient jamais sa conduite. Ces deux points me suffirent pour établir toute mon histoire. Vous vous chargeâtes vous-même de la lettre où j'en instruisais Saint-Surin, et dans laquelle je lui faisais part et de l'étonnante rencontre d'un frère dont je n'aurais jamais connu, s'il ne se fût nommé à moi, et de l'espoir hardi que j'avais de le faire servir, sans qu'il s'en doutât, au rétablissement de notre fortune. Saint-Surin me répondit par vous, et dès ce moment, à votre insu, nous ne cessâmes et de nous écrire, et de nous voir même quelquefois secrètement. Vous vous rappeliez vos mauvais succès chez les Dupérier. Je ne m'opposais point à des démarches dont je ne redoutais rien vis-à-vis de cet homme, et qui, vous faisant connaître Saint-Surin, pouvait vous intéresser pour un amant que j'avais dessein de rapprocher de nous. Vous me montrâtes de l'amour. Vous vous sacrifiâtes pour moi. Tous ces procédés, s'arrangeant aux vues que j'avais de vous captiver, vous vîtes comme j'y répondis, et vous avez éprouvé, d'Angeville, si les liens qui m'enchaînaient à vous m'empêchèrent de former ceux d'un hymen qui consolidait si bien tous mes plans, qui me sortait de l'opprobre, de l'abaissement, de la misère, et qui, au moyen des suites de mes crimes, me plaçait dans une province éloignée de là, nôtre, riche, et femme enfin de mon amant. Le ciel s'y est opposé. Vous savez tout le reste, et vous voyez comme je suis puni de mes fautes. Vous allez être débarrassé d'un monstre qui doit vous être odieux, d'une scélérate qui n'a cessé de vous abuser, et qui même goûtant dans vos bras d'incestueux plaisirs, ne s'en livrait pas moins chaque jour à ce monstre, dès le moment que l'excès de votre pitié l'eût imprudemment rapproché de nous. Haïssez-moi, d'Angeville, je le mérite. Détestez-moi, je vous y exhorte. Mais en voyant demain de votre château les flammes qui vont consumer une malheureuse, qui vous avait aussi cruellement trompé, qui bientôt eut tranché le fil de vos jours. Ne m'ôtez pas du moins la consolation de croire qu'il échappera quelques larmes de ce cœur sensible encore ouvert à mes malheurs, et que vous vous rappellerez peut-être que, née votre sœur, avant que de devenir le fléau et le tourment de votre vie, je ne dois pas perdre en un instant les droits que ma naissance me donne à votre pitié. L'infâme créature ne se trompait pas. Elle avait ému le cœur du malheureux d'Angeville. Il fondait en larmes pendant ce récit. « Ne pleurez pas, d'Angeville, ne pleurez pas, » dit-elle. « Non, j'ai tort de vous demander des larmes. Je ne les mérite point. Et puisque vous avez la bonté d'en répandre, permettez-moi, pour les tarir, de ne vous rappeler en cet instant que mes torts. Jetez les yeux sur l'infortuné qui vous parle. Considérez dans elle l'assemblage le plus odieux de tous les crimes, et vous frémirez au lieu de la plaindre. » À ces mots, Virginie se lève. « Allons, monsieur, » dit-elle fermement à l'officier, « allons donner à la province l'exemple qu'elle attend de ma bon mort. Que mon faible sexe apprenne en la voyant ou conduise l'oubli des devoirs et l'abandon de Dieu. » En descendant les marches qui la conduisaient à la cour, elle demanda son fils. D'Angeville, dont le cœur noble et généreux faisait élever cet enfant avec le plus grand soin, ne crut pas devoir lui refuser cette consolation. On apporte cette misérable créature. Elle la prend, elle la serre contre son sein, elle la baise. Puis éteignant aussitôt les sentiments de tendresse, qui en abolissant son âme en est peut-être y laissé pénétrer avec trop d'empire toutes les horreurs de sa situation, elle étouffe ce misérable enfant de ses propres mains. « Va, » dit-elle en le jetant, « ce n'est pas la peine que tu vois le jour pour n'y connaître que la famille, la honte et l'infortune, qu'il ne reste sur la terre aucune trace de mes forfaits, et deviens-en la dernière victime. » À ces mots, la scélérate s'élance dans la voiture de l'exempt. Saint-Surin suit enchaîné sur un cheval, et le lendemain, à 5 heures du soir, ces deux exécrables créatures périrent au milieu des effrayants supplices que leur réservait le courroux du ciel et la justice des hommes. Pour D'Angeville, après une maladie cruelle, il laissa son bien à différentes maisons de charité, quitta le Poitou et se retira à la Trappe, où il mourut au bout de 2 ans, sans avoir pu détruire en lui, malgré d'aussi terribles exemples, ni les sentiments de bienfaisance et de pitié qui formaient sa belle âme, ni l'amour excessif dont il brûla jusqu'au dernier soupir. Pour la malheureuse femme, devenue l'opprobre de sa vie et l'unique cause de sa mort. Ô vous qui lirez cette histoire, puisse-t-elle vous pénétrer de l'obligation où nous sommes tous de respecter des devoirs sacrés dont on ne s'écarte jamais sans voler à sa perte. Si, contenu par le remords qui se fait sentir au brisement du premier frein, on avait la force d'en rester là, jamais les droits de la vertu ne s'anéantiraient totalement. Mais notre faiblesse nous perd, d'affreux conseils corrompent, de dangereux exemples pervertissent, tous les dangers semblent s'évanouir, et le voile ne se déchire que quand le glaive de la justice vient arrêter enfin le cours des forfaits. C'est alors que l'aiguillon du repentir devient insupportable. Il n'est plus temps, il faut une vengeance aux hommes, et celui qui ne sut que leur nuire doit finir tôt ou tard par les effrayer.